BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Aujourd'hui, on va parler diversité. L'Oréal fait partie des 4 boîtes du CAC 40 à avoir 4 femmes à son comité exécutif. On va demander au DRH Jean-Claude Legrand comment il est arrivé à ce résultat. Et puis, on va parler engagement avec Batoul Hassoun, directrice générale d'Ogilvy Consulting. Elle a mené une grande enquête sur l'engagement au sein des entreprises. Et puis, on parlera entretien annuel. C'est actuellement la saison. C'est Sofiane El-Majdoubi qui a enquêté sur la question « Il faut demander des sous ». Je vous donne un petit indice. Allez, Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Jean-Claude Legrand, le DRH de L'Oréal. Bonjour, merci d'être avec nous. L'Oréal, premier groupe de cosmétiques dans le monde, évidemment. 80...
De beauté,
pardon,
cosmétique.
On ne dit pas de cosmétique, c'est pas bien?
Bah, c'est superficiel pour les gens qui pensent que...
À la beauté, c'est moins superficiel que la cosmétique.
C'est beaucoup plus profond.
Ah.
Dans votre imaginaire et dans le mien, oui.
88 000 collaborateurs, 150 pays, plus d'un million de CV reçus chaque année, ce qui est quand même pas mal. Vous faites partie des 4 boîtes du CAC 40 qui a plus de 4 femmes à son comité exécutif. Comment vous avez réussi ça? C'est un travail de longue haleine, ça a été très dur, il a fallu aller chercher des femmes, ça a été très compliqué? Ou c'était facile?
Non, comme tout ce qu'on fait les uns avec les autres dans une longue durée, c'est ni facile ni compliqué, c'est un travail de long terme. Donc, pour ce qui me concerne, je travaille sur ces questions depuis plus de 15 ans. Et donc, effectivement, depuis plus de 15 ans, on essaye d'amener des gens au sommet de la compagnie. Alors, des femmes, des étrangers, par exemple, nous sommes français, donc l'idée, c'est aussi d'avoir une diversité d'origine sociale, d'origine ethnique, de sexe, de genre, donc de plein de choses différentes. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est que quand on a commencé à s'occuper de ces questions-là, ça mobilisait pas. On ne parlait pas des 10 ans de la loi Copé-Zimmermann.
Mm-hmm.
C'était une volonté délibérée. Hein. J'explique quand je parle de ces questions avec mes collaborateurs que quand moi j'ai rejoint L'Oréal, parce que souvent on me dit c'est simple pour L'Oréal. Non, moi j'ai rejoint L'Oréal, on m'expliquait que c'était des hommes qui faisaient des produits pour les femmes. L'Oréal a un des grands avantages L'Oréal, c'est d'être une très vieille entreprise. Donc on a plus de 100 ans. Pendant très longtemps, c'est des hommes qui ont dirigé L'Oréal. Donc maintenant, le fait que ce soit un équilibre entre deux hommes et des femmes, c'est la première génération.
Mais vous avez fait comment? Vous avez mis en place des quotas volontaires? Vous avez fait monter des femmes que vous avez identifiées? Vous avez fait comment?
Alors, en fait, monter, on a surtout accompagné des femmes. Et comment on fait pour que ça fonctionne dans le corps social? C'est extrêmement simple, puisque vous êtes une femme, Laure, et vous savez très bien que si je vous avais promu, accompagné uniquement parce que vous êtes une femme, vous l'auriez pas accepté. C'est uniquement une idée d'homme. Hein, c'est-à-dire que les hommes pensent que les femmes attendent qu'on les sélectionne, qu'on les accompagne parce qu'on est des femmes. Les femmes, et notamment, en tout cas celles qui sont chez L'Oréal et qui ont, entre guillemets, à la fois les mêmes droits, les mêmes devoirs aussi, mais les mêmes ambitions surtout, elles attendent surtout qu'on leur donne leur chance, et qu'on leur donne leur chance à égalité. Donc c'est un travail de très longue haleine qui consiste d'abord à en avoir autant que d'hommes, c'est-à-dire avoir beaucoup de talent féminin, avoir plein de choix possibles, et surtout, le plus important, c'est de briser une forme de plafond de verre dans des postes où on dit c'est pas pour une femme. C'est probablement plus compliqué d'être une femme dans l'imaginaire des hommes ou des dirigeants quand on dirige un grand pays de L'Oréal, ou c'est plus difficile d'être une femme quand on dirige une région, parce qu'on va devoir se voyager. Donc il y a ce débat de la charge mentale. Et par exemple, qu'est-ce qui a aidé ça? C'est d'équilibrer. On a 1200 expatriés dans le monde. Aujourd'hui, c'est autant d'hommes que de femmes. C'est sûr que l'expatriation il y a des années, c'était essentiellement des hommes qui disaient à leurs femmes « Bonne nouvelle chérie, ce soir, on part à Jakarta ». Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, quand mes équipes ou moi-même, on négocie, que ce soit avec un... Alors, c'est plus intéressant en général avec des femmes parce qu'elles vous disent « Je vais quand même prendre le temps de la réflexion et je vais parler avec mon mari. » Et comment vous allez pouvoir aider mon mari? Et là, on pourrait discuter de comment, là aussi, il y a plus d'une dizaine d'années, en s'associant par exemple avec le groupe Nestlé, qui a créé un réseau qui s'appelle IDCN, qui permet dans plusieurs endroits dans le monde de se préoccuper du conjoint. Donc c'est toutes ces initiatives mises bout à bout, qui ont démarré il y a maintenant une quinzaine d'années, qui portent leurs fruits.
Parfois ça ne fonctionne pas. On est bien obligé de mettre en place de la discrimination positive, sinon ça prend trop de temps.
Oui, enfin, plus que... Moi, je ne sais pas si discrimination positive, on doit surtout montrer des exemples et dire, voilà... Regardez, dans tel job ou dans telle grande marque ou dans tel grand pays, en tout cas c'est comme ça chez L'Oréal, ça fonctionne très bien. Voilà. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ensuite, il y a des jobs... On va prendre deux exemples. Est-ce que les femmes sont plus douées pour faire des ressources humaines que les hommes? Et c'est la raison pour laquelle la majorité des gens en charge des ressources humaines sont des femmes. Ou est-ce que c'est un métier qui, finalement... Alors là, il a pris une forme d'intérêt, d'actualité dans la crise du Covid, mais...
Avant, personne ne s'intéressait à personne.
Moins, donc il y avait plus de femmes.
C'est pareil. Pareil pour le développement durable.
Ou la communication.
Ou l'éducation. Je peux vous faire toute la liste.
Non, il y a des endroits où on pense... Non, est-ce que c'est parce que c'est des métiers féminins ou parce que c'est moins important? Donc, par exemple, chez L'Oréal, la question, c'est est-ce que nous avons des femmes qui dirigent des business? Réponse oui.
Mais la question, c'est comment vous avez réussi? Vous me dites, c'est une politique sur 15 ans d'accompagnement, une génération.
Ouais, une génération, c'est 20 ans. C'est 20 ans de travail de fond qui font qu'aujourd'hui, quand vous avez équilibré votre pipe de talent, ben vous avez autant d'hommes que de femmes. Aujourd'hui, nous, le travail qu'on a mené, d'ailleurs, c'est une complexité pour nous de poursuivre cet équilibre, puisque souvent, maintenant, on est perçu comme très attractif pour des femmes qui disent, dans cette entreprise, je vais avoir plus de chances que dans une autre, parce que moi non plus, je suis désolé, hein, j'achète pas non plus, parce que ça fait 20 ans que je m'occupe de ça, les histoires de il n'y a pas de femmes ingénieures, donc vous dans votre... Nous, on a des femmes ingénieures, hein, par exemple Barbara Lavernos aujourd'hui est rentrée dans le groupe il y a 25 ans. Alors effectivement, si vous discutez aux 30
c'est une
ans...
génération.
Oui, si vous discutez avec elle, dans son école d'ingénieurs, il n'y a pas beaucoup de femmes. Est-ce que les entreprises ont été capables, et elle a fait une école d'ingénieurs dans le nord de la France qui ne la préparait pas nécessairement à travailler pour L'Oréal? Elle est la seule de sa promo à avoir travaillé pour L'Oréal. Donc, la question, c'est comment on se rend attractif auprès de femmes, ingénieures ou pas, qui travaillent dans nos laboratoires, qui travaillent dans nos équipes marketing. Donc, c'est pas qu'un truc de marketing. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est pas pour vous reprendre, cosmétique, parce que les Français, pour eux, cosmétique, ça veut dire superficiel. À la superficie. Bon, pour nous, la beauté, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Hein, et notre vocation, notre raison d'être, puisque c'est de rendre le monde plus beau. Et nous, on pense à ça, non pas parce qu'on en... On est ensecté, hein, mais parce que effectivement, collectivement, on a une force, une dynamique qui permet, donc, depuis 20 ans sur ces questions, c'est moi je donne des leçons à personne.
C'est des exemples. Qui vous avez besoin d'attirer aujourd'hui? Vous recevez plus d'un million de CV par an. Vous dites aujourd'hui, les femmes veulent venir chez nous. Vous dites sur
des
la
hommes.
Diversité.
Des hommes. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, on a essayé de comprendre pourquoi on avait du mal à attirer des hommes. Réponse, après plusieurs... Moi, non pas d'enquête, mais d'analyse, et notamment à travers des focus groupes, bah, souvent ils nous ont dit non, en fait, comme je vois qu'il y a quand même beaucoup de femmes dirigeantes chez vous, ça va être plus compliqué pour moi, puisqu'il y a des hommes qui, depuis petit, comme chacun d'entre nous, à l'école, ont vu en général des filles très engagées, et pas parce qu'elles sont polardes, parce qu'elles sont engagées, parce qu'on est différents, les hommes et les femmes, mais souvent à l'école, pour des résultats scolaires, et non pas parce que les femmes sont obtus ou travaillent plus, mais parce qu'elles ont des qualités qui s'expriment à ce moment de leur vie peut-être plus facilement, ben, elles ont des meilleurs résultats scolaires. Donc nous, on a des hommes qui n'ont pas envie d'être en compétition avec des femmes. Donc il faut qu'on leur montre qu'ils auront aussi leur chance et qu'ils vont pouvoir absolument rejoindre l'entreprise et être aussi promus. Mais ils se disent, avec ce que j'ai vu sur les bancs de mon université, de mon école d'ingénieur, mon école de business, elles vont être plus fortes que moi, je ne rentre pas en compétition avec elles, je les laisse aller chez L'Oréal.
C'est quoi le plus gros défi en termes de RH aujourd'hui de L'Oréal? On a l'impression, franchement, que vous êtes tellement parfait sur le papier, tellement sur les questions de diversité, sur les questions de femmes, que le moindre écart ne vous serait pas permis. Le moindre micro-scandale, le moindre... Est-ce que vous êtes obsédé par ces questions-là?
Alors, on est absolument obsédé. L'Oréal, c'est une entreprise où l'exigence est importante. Pourquoi? C'est comme dans le sport. Hein, quand vous êtes pendant 36 ans, 37 ans, numéro un mondial. Donc nous, c'est aussi quelque chose que j'explique de temps en temps à mes équipes plus jeunes pour leur transmettre, hein, c'est que L'Oréal n'est pas né numéro un mondial. Hein. Il y a des entreprises qui inventent ou un nouveau secteur de marché ou un nouveau créneau ou une rupture technologique qui font qu'elles deviennent le numéro un mondial, parce qu'elles ont inventé. Bon, nous, on est dans un très vieux métier. Hein. Le métier de la beauté est un métier qui existe depuis... des millénaires, hein, on a des preuves de beauté il y a 10 000 ans, 5 000 ans, 2 000 ans, des palettes à phare. Enfin, donc la beauté, c'est pas L'Oréal qui a inventé le métier de la beauté.
Oui. Hein,
L'Oréal n'a pas inventé le maquillage, L'Oréal n'a pas inventé le shampoing. Bon. Donc on n'a pas inventé le métier de la beauté. Par contre, après des années d'un travail de fond, on est le leader mondial. On l'est depuis 34, 35, 36 ans. Donc quand vous êtes le numéro un mondial dans une industrie, on considère que nous, on doit être dans tous les domaines. C'est pas uniquement le leader mondial des parts de marché, je sais pas, de Lancôme ou de Yves Saint Laurent. Bon, donc ça veut dire que c'est une grande exigence vis-à-vis de nous-mêmes, qui consiste à quelque chose qui est maintenant à la mode, mais qu'on a pratiqué depuis longtemps, qui est de viser la Lune. Hein, on a plus de chances d'aller loin, donc le fameux moonshot américain. Donc voilà, nous on est dans une grande exigence et on essaye dans chacun des domaines. On n'est pas parfait. Moi, je suis moi-même pas du tout parfait. J'ai 4 enfants, je me fais reprendre régulièrement de
voler. Vous galérez comme tout le monde.
Je galère plus que tout le monde, je me fais remettre en cause à fond.
Mais, est-ce que ça marque une stratégie RH? C'est-à-dire qu'il faut avoir la gagne à tout prix, il faut avoir envie de viser la Lune, on peut pas être moyen si on bosse chez L'Oréal, on peut pas être tranquille.
Alors, tranquille au sens. Somnoler tranquillement, non.
Non, je dis pas gens... somnoler, mais on vise pas tous la Lune,
Mais non, justement. Alors, c'est aussi pour ça. Qui a un travail des équipes de ressources humaines très opérationnelles sur le terrain de proximité. Il y a plus de gens de ressources humaines chez L'Oréal que dans beaucoup d'entreprises, parce que l'idée, c'est que L'Oréal n'est peut-être pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on vient chercher. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi très précis sur qu'est-ce que notre marque en tant qu'employeur. Mm-hmm. Donc, nous, on ne veut pas être cette entreprise parfaite. On veut être cette entreprise extrêmement exigeante. On ne veut pas écraser les autres. Il y a des places pour tout le monde. On veut simplement diriger le marché, être le leader de ce marché et le leader... par des inspirations qu'on peut donner. Ce virage qu'on a pris il y a très longtemps, une génération sur diversité et inclusion, effectivement, on ne découvre pas le sujet aujourd'hui. Je ne découvre pas le sujet de la place du handicap dans l'entreprise. Je ne découvre pas, par exemple, en ce moment, et c'est ce qu'on fait dans certains pays, et justement, pas du tout dans une logique, par exemple, en ce moment, on discute ici en France de sujets compliqués sur qu'est-ce que ça veut dire les statistiques ethniques. Comment on fait? Nous, on essaye d'avoir un dialogue avec les autorités, avec les gouvernements, pour dire comment on pourrait essayer d'avancer, parce qu'on a les moyens de pouvoir financer, accompagner.
Mais alors, vous dites quoi? Vous dites au secours, les autres entreprises, franchement, vous avez du retard, quoi. Quand vous voyez le marché français se dire, est-ce qu'on prend la moitié de femmes dans les comités exécutifs, vous dites, mais au secours?
Alors, en France, je ne dis pas au secours, je dis.
Si, vous dites.
non, je dis à l'international. Justement, l'idée, ce n'est pas de stigmatiser. Nous, on a pas mal d'alliances avec des entreprises étrangères. Est-ce que nous, on regarde des rôles modèles français? Réponse non. Mais par contre, à l'étranger, oui. Il y a des entreprises qui font des choses absolument formidables. Et sur ce qu'on cherche sur ces questions-là, par exemple, on vient d'agir depuis maintenant 2 ans sur le sexisme. Ordinaire en entreprise, c'est pas quelque chose qu'on fait seul. Nous, on cherche des coalitions. Parce que sur ces sujets-là, notamment sur ces sujets de diversité et d'inclusion, on doit être, nous on appelle, qui est un concept assez connu, qui est un concept de coopétition. C'est-à-dire qu'on peut être en compétition pour vendre, des produits à des consommateurs, et en même temps, sur ces sujets-là, on doit s'unir. Pour moi, il n'y a pas de conquête de part de marché sur le sexisme en entreprise, sur tous les biais et les discriminations qu'on a tous liés à notre éducation. On doit travailler ensemble, parce que si on travaille ensemble, on va mettre plus de moyens et on va pouvoir faire des choses plus grandes. Par exemple, sur le sexisme, 2 ans plus tard, avec Brigitte Grésier au départ, maintenant on a plus de 100 entreprises engagées. Mais on en vaudrait 1000. Je vais vous donner cette anecdote parce qu'elle va se reconnaître, c'est une de mes collaboratrices qui s'occupe de diversité en France, qui vient me voir en me disant, on va fêter les 2 ans. Je dis, il y a combien d'entreprises? Je ne sais pas combien, 50. Je dis, c'est pas possible. Donc il en faut 100. Regardez comme si j'étais devenu fou, mais j'ai l'habitude.
Il faut viser la Lune, vous lui avez dit. Exactement. La Lune.
Alors, c'est très bien. Et il y a 100 entreprises qui ont finalement, en quelques semaines, parce qu'elle s'est mobilisée. Est-ce que pour autant je l'ai harcelée? Non, c'est l'exigence commune.
On a beaucoup philosophé, mais vous allez avoir le droit au même questionnaire que tout le monde, bien terre à terre. Vous me dites oui ou non. On continue avec les CV, oui ou non?
Pour le moment, oui.
Avec les horaires, oui ou non?
Avec les horaires, oui.
Est-ce que vous faites des tests de personnalité?
Non.
Sûr? Vous avez eu un doute?
Non, parce que je réfléchis, je ne veux pas dire de bêtises. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas au courant des derniers développements précis. Non, on n'en fait pas, non.
Les Chief Happiness Officer, c'est oui ou c'est non?
C'est non.
Les livres de coaching?
Pourquoi non? Parce que je peux répondre à... Non, parce que c'est une mode.
Oui, c'est vrai. C'est un peu passé, d'ailleurs.
Et donc là, il y a une grande phrase que tous les Loraliens connaissent, mais que je peux vous livrer, qui est une phrase de François Dalle. La mode, c'est ce qui se démode. Et c'est vrai dans la fashion, et c'est vrai dans le management. Donc là, moi, j'ai vu plein de modes. Par exemple, quand j'ai commencé sur ces questions en France un peu seul, ça n'intéressait pas grand monde. Vous m'avez beaucoup parlé de diversité et d'inclusion. Je dis tout de suite, il n'y avait pas beaucoup de DRH que ça intéressait. Et c'est la raison pour laquelle, pendant très longtemps, j'ai porté ce sujet. Et c'était vrai aussi dans L'Oréal. Mais ce sujet, maintenant, il apparaît comme une très bourrée de sens. Donc les anglo-saxons diraient meaningful, parce qu'on passe notre temps à utiliser des mots anglo-saxons. Je n'ai pas meilleure traduction. Parce que c'est absolument une obligation.
Merci Jean-Claude Legrand d'avoir été avec nous. On pourrait parler jusqu'à la semaine prochaine. On pourrait faire toute l'émission, mais j'ai d'autres invités.
C'est dommage, je pensais que vous alliez me parler de plein d'autres sujets.
Mais il faudra revenir. Il faudra revenir. On peut prendre une date pour le mois de décembre si vous voulez. Allez, merci d'être venu nous voir. Non, décembre de l'année prochaine. On fera un bilan. On va continuer à parler sens tout de suite.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on va parler engagement et sens dans l'entreprise. On est avec Batoul Hassoun, directrice générale d'Ogilvy Consulting. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous venez de mener une étude sur l'engagement au sein de l'entreprise. Est-ce que le contexte actuel, le télétravail, le fait qu'on ne voit plus ses amis de bureau à la cafétéria, est-ce que ça change fondamentalement les questions d'engagement pour les salariés ?
Alors, je vais faire une réponse de Normand. Oui et non. En fait, ce qui est intéressant, c'est déjà peut-être pour repartir un tout petit peu en amont, il y a quand même quelque chose qui a bougé, qui est assez étonnant. C'est qu'aujourd'hui, il y a 72% des Français qui nous disent que le travail contribue à leur bonheur. Et en même temps, un Français sur deux dans le contexte qui veut quitter son employeur. Donc il y a quelque chose qui ne va pas malgré tout. Et donc l'idée de cette enquête, c'est un peu finalement d'aider à la fois les Français à retrouver le chemin du bonheur, mais aussi aux entreprises de savoir sur quel levier s'appuyer pour y arriver. Et donc effectivement, vous me posez la question de qu'est-ce qui a changé finalement. Pour moi, il y a des choses qui n'ont absolument pas changé, des choses qu'on pensait fonctionner et qui finalement ne fonctionnent pas, et des choses qui au contraire sont des nouveaux leviers que la crise a fait venir, qui sont intéressants de regarder de
près. Alors qu'est-ce qui marche toujours ?
Alors, ce qui marche toujours, c'est la fierté d'appartenance. Quand on est fier d'appartenir à son entreprise, on est plus engagé. Ça, c'est le premier point. La reconnaissance, ça, c'est clé. Quand on est reconnu pour ce qu'on fait, pareil, on est beaucoup plus engagé. Et d'ailleurs, j'invite tous les managers qui font en ce moment même les objectifs de la nouvelle année.
Oui, c'est l'entretien annuel. On va en parler juste après, justement.
Exactement. Et ben, ça, c'est très important de passer sur l'heure, souvent qu'on passe avec nos collaborateurs, au moins 10 minutes à dire des bonnes choses, des choses positives. Et je pense qu'avec la crise, c'est encore plus important de le faire cette année.
Donc, énorme besoin de reconnaissance du travail effectué, il faut vraiment dire des choses positives. Ça, c'est ce qui fonctionne toujours. Est-ce qu'il y a des choses qu'on croyait fonctionner qui finalement ne marchent pas ?
Oui, alors un point important qui est ressorti de notre étude, qu'on a menée, je tiens quand même à le souligner, avec Bloomin, qui est notre partenaire et qui est une plateforme qui mesure l'engagement collaborateur, c'est d'abord que l'âge et l'ancienneté dans l'entreprise n'ont pas d'incidence, enfin 0,01% si on veut être précis, sur l'engagement des collaborateurs.
C'est-à-dire que le fait de passer plus de temps dans l'entreprise ne vous rend pas du tout plus engagé dans cette dernière ?
Ni plus engagé, ni moins engagé, parce qu'on pourrait se dire qu'on se lasse au bout d'un moment. Pas du tout, ça n'a pas d'incidence. Pareil pour l'âge.
Mais ça vous a étonné, non, j'imagine quand même.
Tout à fait. Et donc c'est là où on s'est dit, l'âge non plus, ne compte pas que ce soit l'âge dans l'entreprise ou l'âge tout simplement. Et donc peut-être penser des choses différemment, du multigénérationnel, aussi bien les anciens dans l'entreprise que les plus anciens par l'âge. Peut-être qu'il faut aussi réussir à mixer ça et arrêter de penser, comme le pensent beaucoup, les millennials d'un côté et les plus vieux de l'autre.
Mais parce qu'on fait des enquêtes sociologiques, alors on se dit, un millennials, ça a besoin d'un beau bureau, de quelque chose de spécifique. En fait, non.
Alors, pas forcément, et ça c'est un super point, le bureau, typiquement, c'est sorti comme l'un des critères les moins importants dans l'engagement des collaborateurs. Et ça, je pense qu'effectivement, que ce soit les startups, les entreprises américaines, nous ont incité à penser des beaux bureaux avec des tables de ping-pong et
il y a eu quand même des investissements
bonbons
dans les locaux très
exactement
importants.
Alors, attention, je temporise quand même ce petit point, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire qu'il faut avoir n'importe quel bureau, ça fonctionne, il faut quand même un minimum, on va dire, mais par contre, c'est pas ça qui va faire qu'on va être plus engagé. Et là aussi, quand même, je mets un petit bémol, les bureaux en tant que tels, c'est pas important. Mais dans ce qu'on est en train de vivre et la crise qu'on est en train de vivre, où on est de plus en plus en distanciel, quand on va revenir au bureau, ça va finir par arriver.
Il faut être dans un endroit que c'est pas exceptionnel, mais en tout cas là, ça va peut-être.
Alors, il faudra un beau bureau, mais surtout, il va falloir repenser le sens du bureau. C'est-à-dire se dire, qu'est-ce qui fait que je vais recréer du commun ? Le bureau, en fait, par rapport au télétravail, c'est retrouver mes autres collaborateurs, les autres employés, etc. Et donc, mes collègues, ça, si on recrée pas du commun, si on recrée pas une envie, et on sait qu'il y a des choses qui se font mal à distance, que ça soit la créativité, etc. Et donc ça, va falloir le penser. Donc le bureau juste décoratif, c'est pas ça sur lequel il va falloir travailler. Par contre, le bureau qui a du sens et qui permet aux collaborateurs d'avoir de nouveau envie de se retrouver, de se réinscrire dans une dynamique collaborative et commune, oui, ça absolument, il faut le travailler.
Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à la lueur de cette étude à une entreprise qui quand même se dit que là, il faut qu'elle travaille sur son attractivité ?
Ouais. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que d'abord, il y a trois types de critères à travailler. On pense beaucoup aux critères collectifs parce que quand on gère une entreprise, on pense le collectif. C'est vrai que c'est important, mais il faut aussi travailler sur le relationnel et l'interpersonnel et aussi sur l'individuel. Et ça me permet de vous donner les derniers critères qui sont importants, les nouveaux.
Juste quand vous dites sur le relationnel, c'est quoi ? C'est la manière de communiquer ? Parce que beaucoup disent, et beaucoup de salariés se plaignent, qu'en télétravail, les rapports de communication sont plus violents. C'est-à-dire qu'on fait des listes, on va vite, alors qu'avant, on prenait le temps de converser.
Bah, il y avait de l'informel, en fait. Ouais. Donc, il faut réussir à recréer cet informel. Et typiquement, dans l'informel, un des leviers super importants pour garder vos collègues et vos collaborateurs engagés, c'est l'amitié. Aujourd'hui, dans les plus engagés, les personnes qu'on a dans l'étude qui sont les plus engagées, 87% nous disent on ne quittera pas l'entreprise parce qu'on s'y est fait des amis. Donc voilà, informel est capital pour le futur.
Et c'est pas très facile de se faire des amis sur Teams quand même.
Alors exactement, mais il y a des nouvelles façons de le faire. Il y a des entreprises, par exemple Buffer aux États-Unis, qui est une entreprise qui fait des logiciels, qui est passée au 100% télétravail depuis même avant la crise. Alors ils ont mis un système en place qui est celui des buddies. Donc quand on arrive, on a trois parrains dans l'entreprise qui prennent le temps de nous introduire, d'avoir des rapports informels. On a des logiciels, Sococo par exemple, qui est un logiciel qui permet de recréer un bureau virtuel. Et quand je suis dans mon bureau, les gens le voient, donc ils vont pas venir m'interrompre. Par contre, quand je suis à la cafette, ils savent que du coup je suis disponible et donc je vais pouvoir discuter avec mes collègues et recréer cet informel.
Il faut faire et se faire des amis au travail. C'est un peu la finalité de votre étude. Merci beaucoup, Batou Lassoune, d'être venu nous voir, directrice générale d'Ogilvy Consulting. Et nous, on va parler entretien annuel. C'est un moment important. Certains disent qu'il faut que ça dure 2 heures carrément. Vous disiez une heure, mais avec un moment avec une valorisation du salarié. On va écouter tous nos conseils.
BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Business case.
Et on va parler entretien annuel puisque c'est la saison début février. On est avec Sofiane El-Majdoubi. Bonjour.
Bonjour.
Les entretiens annuels, évidemment, ils ont toujours lieu, mais cette année, c'est plutôt du distanciel.
Évidemment. Selon un sondage récent, 81% d'entre eux se dérouleront en visio. C'est beaucoup car le télétravail n'est pas obligatoire à 100% et on aurait pu imaginer un retour au présentiel. Mais non, ça sera à distance. Et là où c'est très étonnant, c'est que les managers et les collaborateurs ont une vision totalement différente de l'exercice. Un peu plus de la moitié des managers pensent que c'est plus difficile et moins qualitatif en visio qu'en présentiel. De l'autre côté, 78% des collaborateurs pensent que c'est exactement l'inverse.
Bah ouais, c'est plus facile finalement.
Exactement.
On est chez soi, on est en pyjama.
C'est ça, on est dans un exercice où en fait c'est beaucoup moins formel, on est chez soi, pas la pression du cadre, du fait de voir son manager derrière un bureau, enfin c'est beaucoup plus facile.
Donc entretien pour tout le monde, en visio comme en présentiel, il y a quand même des règles à respecter, il faut se préparer quoi.
Exactement, on vient avec toutes ses armes et bien aiguisé, c'est-à-dire préparé avec tout ce qu'il y a de plus factuel pour réussir son entretien annuel. Il faut dresser un bilan de son année, un bilan global sur les réalisations en lien avec les objectifs de l'année écoulée, lister ses principales réussites et difficultés, par exemple si vous avez décroché tel ou tel contrat, un échec sur tel dossier, faire le point sur les compétences à date, les maîtrises et efficacité prouvée dans vos tâches, identifier et lister vos points d'amélioration, cibler les formations potentielles en fonction toujours de ces points d'amélioration.
Ça veut dire, Sofiane, que je fais une liste, les plus, les moins, presque mathématiques, et je dis moi-même mes moins.
Mais bien sûr, c'est important en fait d'être lucide, ça montre la capacité du collaborateur à se remettre en question, tout simplement. Après, il faut définir un projet professionnel à court et moyen terme.
Donc on vient bien armé, on a bien réfléchi, on se prépare et on fait une liste quasi scientifique, hein, c'est pas vrai exactement le terme, mais bon. C'est aussi un moment où on aborde évidemment le sujet de la rémunération. Je le dis ici quasiment toutes les semaines, il faut demander des sous.
Exactement, mais en fait la pandémie n'aura peu ou très peu d'impact sur les ambitions salariales. Il y a 68% des salariés qui vont demander une augmentation en 2021.
C'est bien, ça ne veut pas dire qu'ils l'auront, mais au moins ils essayent.
Ouais, mais cependant, le budget consacré aux augmentations ne devrait pas dépasser les 1,4% en 2021. Par rapport aux années précédentes, on tablait sur 2%. Et selon le cabinet en ressources humaines LLH, une entreprise sur 5 va renoncer à proposer une augmentation à ses collaborateurs.
Donc ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais en tout cas, il faut demander.
Il faut demander,
c'est le jeu de l'entretien. Je vous rappelle que votre manager, lui aussi, il veut jouer à l'entretien et il veut jouer à l'augmentation de salaire. Donc demandez toujours un peu plus pour pouvoir avoir une marge de négociation. C'est la fin d'Happy Boulot le Mac. Merci Sofiane d'être venue nous éclairer sur les entretiens. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Même lieu, même heure.
BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.